Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, mafia, une certaine idée de l'État. Bonjour Charlotte Moge. Vous êtes historienne, maîtresse de conférences en études italiennes à l'université Jean Moulin Lyon 3, spécialiste de l'étude des mafias et de la violence politique en Italie. Vous avez consacré votre thèse à la mémoire de l'anti-mafia. Alors voilà qui ne va pas calmer les contempteurs de la Cour européenne des droits de l'homme. En début de semaine, la CEDH dénonçait les conditions de détention inhumaines et dégradantes dont les mafiosi italiens font l'objet. La Cour considère que la législation qui a permis au début des années 90 de prononcer des peines de perpétuité incompressibles devrait être modifiée. La justice italienne trop dure avec les mafias, ce ne fut pas toujours le cas. Longtemps, Cosa Nostra, la plus connue d'entre elles, aura bénéficié d'une forme d'impunité de la part du pouvoir judiciaire et politique, pas seulement en raison de sa capacité à corrompre, mais aussi parce que les organisations mafieuses ont pu servir de commodes intermédiaires, se substituant à un État trop faible pour assumer une politique sociale ambitieuse. Cette entente cordiale prit fin, du moins officiellement dans les années 90, sous les coups de butoir de l'opération main propre. La démocratie chrétienne italienne en sortit laminée. La mafia, elle, existe toujours, mais son rôle politique a-t-il changé ? Mafia, une certaine idée de l'État, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Charlotte Moge, émission que nous enregistrons depuis les rendez-vous de l'histoire à Blois. Alors nous allons essentiellement parler de l'Italie avec vous dans cette émission, mais pour commencer, je voudrais qu'on évoque cet appel d'un collectif corse qui s'appelle « Non à la mafia, oui à la ville » a été signé par une trentaine de personnalités de Lille. Et dans le texte, on peut notamment lire ceci, il y a une emprise mafieuse d'une intensité jamais atteintes en Corse. Est-ce que ça vous surprend, Charlotte Moge, de voir la société civile corse se liguer contre la mafia ?
Non, ça ne me surprend pas. Enfin, ça surprend parce que généralement, comme dans tous les endroits où on a une réalité mafieuse, on a l'omerta. La Corse ne fait pas défaut à ça. Par contre, la mobilisation de la société civile en Corse, elle en est encore à ses balbutiements. Ce sont des collectifs qui sont très récents. Mais on remarque des similitudes avec la situation italienne, donc tout ça est à observer.
Alors c'est un collectif qui s'est créé après l'assassinat d'un militant nationaliste, c'était à la mi-septembre. L'initiative a été évoquée à l'Assemblée de Corse, ainsi que par le président du Conseil exécutif corse, Gilles Simeoni. Et écoutez la définition qu'il donne de ce qu'est une mafia.
Si la mafia, c'est la convergence entre la criminalité organisée, le pouvoir économique, le pouvoir politique et le fonctionnement des institutions, une convergence qui peut être plus ou moins marquée, plus ou moins aléatoire, mais une convergence qui existe ou qui risque d'exister, nous sommes au risque avéré et quelquefois réalisé de la dérive mafieuse ou pré-mafieuse.
Voilà, Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif corse, c'est un autonomiste, ancien maire de Bassée, il parle d'une convergence des intérêts mafieux, économiques et politiques. Est-ce que vous considérez qu'il s'approche de ce qu'est la définition d'une organisation mafieuse et donc de la mafia, Charlotte Moge?
Oui, alors il s'en approche, il parle de convergence, il parle aussi de dérive pré-mafieuse. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas encore totalement dans le cas d'une vraie mafia. C'est un débat qui est sans fin et que je pourrais pas évoquer ici. Mais une mafia, c'est effectivement une forme d'exercice du pouvoir spécifique. Et c'est une organisation criminelle qui va imposer son pouvoir sur un territoire par la violence. Tout ça dans le but de s'enrichir. Mais les liens avec le pouvoir politique et son insertion dans l'économie, c'est ce qui fait la spécificité des mafias.
Voilà, parce que l'activité criminelle ne suffit pas à définir une mafia. Il y a un terme qui est très important, c'est celui d'intermédiation quand on parle de mafia, c'est-à-dire que ce sont des organisations qui servent aussi d'intermédiaires, c'est ce qui fait leur spécificité.
Oui, bien sûr. Elles ont un rapport d'échange de faveurs avec le politique. Donc parfois, ce sont des intermédiaires dans des situations particulières, dictées selon les circonstances, mais elles rendent des services aussi.
Elles rendent des services aux politiques, Charlotte Moge, mais elles rendent aussi des services à la population. Elles ont un rôle social important. Alors même si ça peut être une sorte de piège dans lequel peuvent se laisser enfermer justement ces populations, mais il y a quand même un vrai rôle social. En tout cas, c'est aussi comme ça que se présentent ces organisations.
Voilà, alors c'est comme ça qu'elles construisent leur mythologie. Elles se présentent comme un acteur social, elles fondent leur légitimité sur ce rôle social. Et d'ailleurs, lors de l'apparition des mafias au milieu du 19e siècle, elles se proposent comme une autorité locale face à l'État unitaire qui est lointain. Et c'est la défense de la veuve et l'orphelin, mais tout ça, ça fait partie du discours mafieux, de la mythologie mafieuse.
Mais ça n'est que de la mythologie pour vous, ou il y a quand même une réalité qui fait que ces organisations sont quand même, par moment, là pour rendre des services. Alors tout service rendu peut-être demande à être ensuite, restitué hein, par ceux qui en bénéficient, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas une réalité de ce rôle social de la mafia ?
Ah bien sûr, mais si la Camorra trouve du travail aux jeunes et qu'après elle leur demande de transporter de la drogue, on est dans un échange de faveurs. Le rôle social, oui, elle trouve du travail, mais la contrepartie est quand même problématique.
La Camorra, alors vous évoquez ce nom, c'est une des organisations mafieuses italiennes. Il y en a quatre, hein. On a évoqué Cosa Nostra, sont les deux plus connus.
Non, la 'Ndrangheta commence quand même à être connue, et heureusement, hein, c'est clairement la mafia la plus puissante, c'est la mafia calabraise.
Alors peut-être qu'elle a été moins reprise en main par la fiction, notamment, qui fait que Cosa Nostra et la Camorra sont peut-être plus populaires, en tout cas, dans l'imaginaire collectif.
Oui, et puis la répression est arrivée plus tard, c'est-à-dire qu'on a souvent considéré que c'était la mafia qui se développait un peu dans l'ombre des autres, sauf qu'à force d'être dans l'ombre, elle a pris la place notamment de Cosa Nostra pour ce qui concerne la distribution de la drogue.
Et la quatrième, elle s'appelle comment ? Et elle se situe où,
La Sacra Corona Unita, dans les Pouilles.
Le fait que ça soit développé, alors c'est pas exclusivement en Italie bien sûr, mais on va dire que c'est quand même ce pays-là qui a vu naître des organisations extrêmement constituées, organisations mafieuses, ça n'est évidemment pas un hasard. En quoi ça rencontre la construction politique de l'Italie, Charlotte Moge?
Alors, les mafias, je l'ai dit, apparaissent au milieu du 19e siècle, en première moitié au milieu du 19e siècle. C'est la période pendant laquelle l'Italie construit son unité. Et clairement, les recherches ont montré que les mafias prennent de l'importance parce que l'État unitaire est encore faible. Donc, c'est la force locale des mafias et la faiblesse de l'État unitaire, l'un dans l'autre, c'est ce qui légitime le pouvoir mafieux au niveau local. Et on a aussi une forte défiance des populations méridionales face à un État lointain. Hein, les régions méridionales ont toute une histoire commune. Elles faisaient toute partie du royaume des Deux Siciles, qui a été dominé par les Bourbons d'Espagne jusqu'à l'unité, hein, du 16e à l'unité. Donc on a vraiment une défiance envers un pouvoir un peu centralisé et une tradition historique aussi féodale, où les paysans ne possédaient pas la terre, donc on avait une élite, une noblesse qui possédait la terre, et la mafia, en tout cas en Sicile, va s'insérer comme intermédiaire entre cette élite locale de propriétaires terriens et les paysans, et donc ils vont servir les uns en réprimant les autres.
Ça veut dire que selon le niveau, disons, de maturité politique, la mafia va plus ou moins se développer dans les différentes régions italiennes, là où on est resté dans des structures féodales. C'est un terrain qui est beaucoup plus propice à leur expansion.
Oui, oui, oui. Et puis on n'a pas la même tradition militante aussi que dans le nord. Donc ça change beaucoup de choses par rapport aux traditions je pense aux coopératives de l'Émilie-Romagne. Mais on a vu récemment que l'Émilie-Romagne n'est pourtant pas exempte de présence mafieuse.
Est-ce que le niveau de développement économique a aussi son rôle à jouer dans la capacité de ces mafias à se développer ou non ? C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt dans des territoires qui sont pauvres qu'on va voir apparaître ces organisations ?
Alors, ça a été longtemps ce qu'on a pensé. Hein, clairement, même nous, chercheurs, on a pensé qu'il y avait un lien. Alors, les mafias se présentent, la 'Ndrangheta en particulier, comme fille de la misère. Hein, on a été délinquants parce qu'on pouvait pas faire autrement. Par contre, c'est vrai qu'on s'est dit qu'il y avait quand même un lien entre misère et développement des mafias. Par contre, ce qui nous fait mentir, c'est les nouvelles recherches sur l'implantation des mafias, en particulier la 'Ndrangheta, dans le nord du pays. Je vous parlais il y a un instant de l'Émilie-Romagne. L'implantation de la 'Ndrangheta autour de Reggio Emilia, qui est une petite ville à côté de Bologne, une ville où il y a pratiquement le plein emploi, montre que ce n'est pas juste un problème de chômage et de pauvreté.
Bon alors Charlotte Mauch, vous nous avez expliqué que ces mafias avaient pu se développer profitant de la faiblesse d'un État italien qui était en train de faire son unité. Par la suite, l'État italien, malgré sa structure particulière, évidemment très différente de celle de la France, est devenu beaucoup plus fort. Qu'est-ce qui fait que les mafias ont continué à peser et peser notamment aussi au niveau politique de manière aussi forte? Est-ce que ça veut dire que le pouvoir politique, pendant un temps, finalement, c'est assez bien, assez bien admis finalement l'existence de ces organisations parallèles.
Oui, effectivement, il l'a admise, mais il faut pas non plus généraliser. C'est pas le pouvoir politique en général. On parle de quelques individus qui ont favorisé.
Bien placés, disons.
Exactement. Et la mafia, elle contrôle un territoire. Grâce à ce territoire, elle contrôle des votes. C'est pour ça qu'elle est intéressante pour le pouvoir politique, pour les certains représentants politiques. La Camorra ou l'Andrangheta, enfin bref, toutes peuvent être à peu près sûres du nombre de voix qu'elles peuvent amener sur un seul et même territoire pour un candidat. Hein. On a tout un trafic de bulletins de vote, puisqu'en Italie, c'est pas des bulletins de vote comme en France avec un nom, c'est une grande feuille sur laquelle il faut faire des croix. Donc du coup, on a des feuilles vierges qui sortent des bureaux de vote, qui sont pré-remplies et qui re-rentrent. Enfin bref, donc ils arrivent à contrôler le processus de vote, ils savent exactement qui faire élire. Et c'est bien cette capacité-là à faire élire des gens qui fait qu'après, quand la personne en question est élue, elle renvoie l'ascenseur.
Est-ce que ça peut être aussi parce que les mafias assurent une forme de tranquillité sociale? Alors bien sûr, il y a des crimes, il y a des assassinats, mais peut-être que plus largement dans la société, là où il y a la mafia, il n'y a pas d'agitation sociale, Charlotte Mauch. Est-ce que ça peut jouer aussi sur ce compagnonnage entre quelques politiques, pas tous, comme vous l'avez dit, bien sûr, et ces organisations?
Oui, mais ça a été le rôle de Cosa Nostra, clairement, pendant le 19e siècle, et même au sortir de la Seconde Guerre mondiale, hein, puisqu'elle a été utilisée par la démocratie chrétienne pour réprimer les révoltes paysannes d'occupation des terres non cultivées. Et là, elle a été utilisée vraiment comme un bras armé de l'anticommunisme.
Est-ce qu'on pourrait dire, de ce point de vue, Charlotte Mauch, que les mafias sont apolitiques, sauf quand il s'agit de s'opposer à des mouvements révolutionnaires? En tout cas, la mafia n'accompagne pas les mouvements révolutionnaires. Ça la dérange davantage que ça l'attente.
Oui, bah disons que le partage des richesses, elle n'est pas tellement pour. Donc forcément, idéologiquement, ça colle pas trop. Par contre, à part certains cas, certaines franges de l'Andrangheta pendant les années 70 qui ont été particulièrement liées un peu idéologiquement à une partie de l'extrême droite, les mafias sont apolitiques. Hein. L'Andrangheta dans le Nord, elle peut soutenir un candidat du Partito Democratico et après, elle peut soutenir un candidat de Forza Italia. Il n'y a aucun problème. Le problème, elle s'offre plus aux francs.
Et sous Mussolini?
Ah bah Mussolini, alors c'est une autre histoire, puisque Mussolini, en 1924, va en Sicile, et quand il arrive en Sicile, la personne qui était censée le guider, hein, s'étonne du dispositif de sécurité, dit « Mais enfin, Duce, vous n'en avez pas besoin, vous êtes ici avec moi, vous êtes ici chez moi, il ne va rien vous arriver. » Et donc le contrôle social dont vous parliez, et Mussolini, piqué au vif, se demande qu'est-ce que c'est que cette autorité, et ce phénomène local qui a la capacité de le protéger mieux que son service de sécurité et donc lance une répression féroce contre la mafia. Mais pas parce qu'il s'agit d'un phénomène criminel, mais bien parce qu'il s'agit d'une autorité concurrente à la sienne.
Et ça va être le cas jusqu'à la fin de son règne à Mussolini, ou bien est-ce qu'il va y avoir une évolution dans son approche de la mafia?
Non. On a quand même une approche répressive à partir de 1925. Mais bon, à partir de 1925, l'Italie devient aussi un pays totalitaire. Donc c'est un discours qui est plus complexe. Puis pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, les mafias sont plutôt en sous-marin, on va dire.
Alors il va y avoir ce qui constitue peut-être un tournant, c'est toujours compliqué d'un point de vue historique d'en déterminer un seul, il y en a sans doute plusieurs en la matière, mais dans la façon dont le pouvoir politique italien appréhende ce phénomène des organisations mafieuses. On a choisi une date, vous allez nous dire ce que vous en pensez après avoir écouté cet extrait des actualités de France Inter du 4 septembre 1982. La veille a été assassiné à Palerme, en Sicile, donc le chef des carabiniers, un des héros de la lutte contre les brigades rouges, Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Le général Dalla Chiesa n'aura pas eu le temps de s'attaquer à la mafia. Le pourfendeur des brigades rouges, le héros de la lutte antiterroriste en Italie, a été assassiné ainsi que sa jeune femme cette nuit en Sicile où il venait d'être nommé pour s'attaquer à la mafia. Les témoignages nous disent que l'Italie est en état de choc. L'assassinat du général Della Chiesa a produit le même effet que celui d'Aldo Moro il y a 4 ans par les Brigades Rouges. Le général et son épouse ont été assassinés dans leur voiture à Palerme, où ils venaient tout juste d'arriver. Le président de la République, M. Pertini, a estimé que le sacrifice du général Della Chiesa va renforcer encore la détermination de neutraliser les bandes d'assassins qui ensanglantent le pays. Pour le président du Conseil italien, Giovanni Spadolini, cet assassinat est un défi mortel lancé par la mafia à l'État démocrate.
Je parlais de tournant, Charlotte Moge. Est-ce que vous adhérez à cette idée que ce jour-là, il se passe quelque chose? En tout cas, on ne peut plus accepter peut-être ce que l'on tolérerait de la part des organisations mafieuses en Italie?
Oui, bien sûr. Mais tout cet assassinat-là, on ne le comprend que dans un contexte, c'est-à-dire qu'il y a un crescendo. Il y a une guerre qui ensanglante Palerme à partir de 78, une guerre de mafia interne, un conflit systémique des Corléonais contre les familles palermitaines, environ 1000 morts en 5 ans. Donc faut imaginer qu'il y a des jours où il ne passait pas un jour à Palerme sans qu'on retrouve un cadavre. Et en parallèle, Cosa Nostra s'en prend aux représentants de l'État et assassine des carabiniers, des policiers, des magistrats. Et donc, c'est des hommes politiques et notamment Pio La Torre, 3 mois avant Dalla Chiesa. Et Dalla Chiesa, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est le moment où on ne peut plus ne plus voir. Et Dalla Chiesa, il a en plus ce rôle. Il est arrivé en héros national. C'était celui qui avait arrêté les Brigades Rouges. Donc la mafia venait de tuer un symbole national énorme. Et après son assassinat, la politique, un peu dos au mur, légifère et adopte la proposition de loi que Pio La Torre, assassiné 3 mois plus tard, avait fait 2 ans avant, qui était d'instituer un délit d'association mafieuse, c'est-à-dire de sanctionner pénalement la seule appartenance à la mafia, en définissant donc la mafia d'un point de vue juridique et en instaurant une confiscation des biens, ce qui est très très important, parce que Pio La Torre disait que on ne peut lutter efficacement contre la mafia qu'en frappant les mafieux au portefeuille.
Mais alors ça, vous savez, Charlotte Moge, qu'il suffit pas de voter des lois, encore faut-il les faire appliquer. Est-ce que ça va être vraiment le cas? Si on regarde quand même l'histoire de ces organisations criminelles, 10 ans plus tard, 1992, là encore, une série d'assassinats extrêmement spectaculaires, Salvatore Lima, qui est un homme politique, et puis 2 juges, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Est-ce que ça veut dire que pendant ces 10 ans-là, la mafia a pu continuer finalement à faire ces exactions, ou bien est-ce que c'était une forme de, appelons ça un chant du cygne peut-être, c'est-à-dire que dans cette ultra-violence se profilait la fin d'une certaine idée de la mafia?
Non, alors ça veut surtout dire que justement grâce à la loi La Torre, il y en a qui ont lutté efficacement contre la mafia, puisque Giovanni Falcone et Paolo Borsellino vont utiliser cet instrument juridique pour faire une instruction fleuve qui va amener au maxi-procès de 1986-1987. Donc ce maxi-procès qui renvoie 474 mafieux à la barre, on est obligé de construire une salle d'audience à côté de la prison de Palerme de Luciardone pour faire avec des cellules dans lesquelles il y a des dizaines et des centaines de mafieux. Le verdict va condamner tous les chefs de Cosa Nostra à perpétuité, ce qui était du jamais vu. Et ensuite, pourquoi 92? Parce qu'en 92, la Cour de cassation confirme les verdicts du maxi-procès et Salvo Lima, qui était le référent politique de Cosa Nostra au niveau national, il est assassiné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi à faire respecter ses promesses. Il avait dit que tout sauterait en cassation et rien n'a sauté du tout. Donc du coup, il est assassiné et après, Cosa Nostra s'en prend à Giovanni Falcone et Paolo Borsellino.
Il avait dit tout sauterait en cassation, Charlotte Moge, parce que une forme de transition voulait qu'effectivement en cassation, les condamnations finissaient par sauter.
C'est-à-dire que les procès mafieux finissaient tous dans la même section de la Cour de cassation qui était présidée par un juge qui s'appelait Corrado Carnevale, gentiment surnommé la mazza sentenze, c'est-à-dire celui qui tue les sentences. Et donc Falcone, en 91, se fait nommer aussi. Enfin, ça se passe pas très bien pour lui à Palerme, donc il peut plus travailler comme il veut. Il intègre la direction des affaires pénales au ministère de la Justice à Rome et la première chose qu'il fait, c'est de redistribuer les cartes en cassation pour que tous les procès ne soient plus jugés dans la même section. Et c'est en faisant ça qu'il évite que son bébé, le maxi procès, arrive à la section de Corrado Carnevale.
Puisqu'on s'intéresse à cette histoire de la mafia à travers l'histoire politique de l'Italie, est-ce qu'on peut dire que la lutte contre les organisations mafieuses aura eu raison de la démocratie chrétienne italienne, Charlotte Moge?
Pas vraiment. C'est l'opération main propre qui a eu raison de la démocratie chrétienne, et l'opération main propre n'a rien à voir avec la mafia, puisque c'est la lutte contre la corruption, contre le financement occulte des partis politiques. Donc du coup, c'est un système de corruption généralisé à Milan et dans tout le pays, mais qui finançait la vie politique. Donc la démocratie chrétienne était affaiblie, mais elle était affaiblie par plein de scandales, et surtout par la disparition de l'équilibre Est-Ouest qui avait structuré la vie politique pendant toute la guerre froide.
On ne peut pas parler de la vie politique italienne contemporaine sans évoquer un personnage qui est Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi et la mafia, il y a des rencontres, ça match.
Ça match plutôt pas mal, ouais. Justement, quand en 92 Salvo Lima se fait assassiner, en 92 ou 93, mais il me semble 92, la démocratie chrétienne, comme tous les partis politiques issus de la résistance et donc de la période républicaine, disparaissent suite à l'opération main propre. Donc on est dans un entre-deux où le paysage politique est en pleine recomposition. Silvio Berlusconi arrive à ce moment-là et descend dans l'arène, comme il le dit lui-même, et donc il fonde son parti politique. Il fonde son parti politique appuyé par son ami et bras droit Marcello Dell'Utri, qui, le hasard fait bien les choses, s'est retrouvé être le nouveau référent politique de Cosa Nostra au niveau national. Donc, il a été condamné, ça a été dur et long, mais il a finalement été condamné en cassation à 7 ans de réclusion pour ce qui s'appelle le concours externe en association mafieuse, c'est-à-dire le fait d'avoir été un appui politique pour la mafia.
Est-ce qu'on a suffisamment d'informations aujourd'hui pour caractériser les relations qu'entretiendraient ces organisations avec une partie du personnel politique italien actuel ? Ou bien est-ce qu'il faudra attendre peut-être quelques années ? Et le travail des historiens pour en savoir davantage.
Voilà, on va attendre le travail des historiens. C'est juste qu'on a encore des petites accointances qui sont parfois minimisées. Matteo Salvini parfois publie, Matteo Selfini comme l'appelle ses détracteurs, qui publie beaucoup de selfies. Un qui a beaucoup fait parler de lui, c'était un selfie avec un de ses amis et qui se trouve être le fils d'un boss de la Camorra. C'est un petit peu gênant.
J'évoquais en début d'émission, Charlotte Moge, ce commentaire de la Cour européenne des droits de l'homme à propos des conditions de détention des mafiosi, en remettant en cause cette loi qui avait permis de les incarcérer avec une perpétuité incompressible. Est-ce que c'est une demande qui existe en Italie, que peut-être d'assouplir le régime de détention, bien est-ce qu'au contraire, peut-être dans la société civile italienne, il y a la volonté de surtout rien toucher et de laisser ces gens-là en prison?
Non, c'est un peu un totem, cet article, le 41 bis, qui est non seulement la perpétuité incompressible, mais surtout l'isolement absolu, avec un enfermement de 23 heures sur 24 et une surveillance vidéo de 24 heures sur 24. Alors ça peut paraître effectivement très très dur, mais on est face à des gens qui, pendant plus d'un siècle, ont commandé depuis la prison. Raffaele Cutolo, qui était un boss de la Camorra, se faisait vraiment livrer, comme dans les films de Scorsese, les langoustes et le champagne. Donc, et il commandait, et les gens venaient le voir à Poggioreale et en prison sans problème. Donc forcément, ce carcere duro, ces mesures d'isolement, elles servent à couper le lien de commandement, elles sont très importantes. Maintenant, la Cour européenne des droits de l'homme, elle ne remet pas cette législation en cause. Elle dit qu'effectivement, chaque individu a droit à une seconde chance et que c'est de ça que l'Italie prive. Donc, on verra ce que ça va donner. Ça donne surtout que maintenant, il y aura un juge d'application des peines qui va pouvoir moduler les peines. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir sortir, mais ils vont peut-être pouvoir aller à la bibliothèque, faire des trucs.
Voilà. Alors, le phénomène mafieux est, on l'a compris à travers cette discussion, profondément ancrée dans le territoire italien, mais sa logique s'est toutefois mondialisée. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
Tout comme le commerce, la mafia ne connaît pas de frontières.
Oui, ce qui pose la question des outils, des moyens utilisés pour lutter contre ces réseaux criminels. Pour comprendre un peu ces enjeux à l'échelle mondiale, j'ai interrogé l'économiste Clotilde Champerrache pour lui demander d'abord comment les mafias arrivent aujourd'hui à s'affranchir des frontières nationales. Les armes des États sont-elles encore adaptées à cette réalité du phénomène mafieux ?
Ce qu'on observe avec les mafias, c'est une présence localisée, mais on a beaucoup d'indices de présence mafieuse en dehors de leur territoire originel, ce qui pose la question de l'arsenal juridique policier pour contrer ce phénomène mafieux en dehors des territoires habituels. Et c'est là qu'on a de grosses difficultés, parce que pour le code pénal italien, le délit d'association mafieuse est clairement défini, il est spécifique, il est différent du délit de malfaiteur, association de malfaiteur, alors que dans d'autres pays européens, le délit mafieux n'existe pas, et on ramène ça à une question criminelle standard. C'est-à-dire que les outils ne sont pas suffisamment puissants pour attaquer une forme particulièrement aboutie de criminalité organisée.
Des outils pas suffisamment puissants, mais pas seulement. Il y a aussi la nature des informations nécessaires pour lutter contre le crime organisé à l'échelle internationale. Bien souvent, ces informations sont sensibles, ce qui n'incite pas franchement les États à les partager, même avec des pays partenaires. Dans certains cas, des coopérations ont bien lieu, mais ne se traduisent pas forcément en actes.
On a des cas comme ça où l'Italie a diffusé des informations à des pays européens, je pense en particulier à l'Allemagne et aux Pays-Bas, en disant « attention, les personnes qui sont sur votre territoire sont des personnes extrêmement dangereuses » et où cette communication d'informations n'a pas été suffisamment prise au sérieux. C'est le cas des assassinats à Duisbourg en 2007, où la police allemande était informée que les mafieux calabrais sur le territoire ne s'occupaient pas seulement de pizzeria, mais géraient le trafic de drogue. Autre exemple, c'est un trafic qui a été démantelé en 2017 aux Pays-Bas, un trafic de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud, et la drogue passait par le port de Rotterdam. Et là, la coopération de la police néerlandaise et de la justice néerlandaise ont été très faibles, et on a eu une distinction entre les entrepreneurs néerlandais qui étaient impliqués et qui finalement n'ont pas trop été condamnés, et on a par contre condamné plus lourdement les Italiens en disant finalement ce phénomène-là est italien, c'est un problème italien et non pas un phénomène transnational. Donc il y a vraiment une lenteur dans la progression de la lutte contre la mafia, où encore une fois on a tendance un peu à folkloriser, à marginaliser la question en disant c'est une affaire italienne, c'est aux Italiens de s'en occuper, et nous nos territoires, bon bah, ils servent parce qu'ils sont sur la route de la drogue par exemple, mais ça n'est pas notre problème direct. Or, c'est faux.
Voilà, c'était l'économiste Clotilde Champérache à qui on doit cet ouvrage, La face cachée de l'économie, néolibéralisme et criminalité, publié cette année aux presses universitaires de France.
Une toute dernière question, Charlotte. Moi, je vous évoquais dans une réponse précédente les films de Scorsese. Est-ce que c'est Scorsese qu'il faut regarder au cinéma ou est-ce que vous auriez un roman à suggérer pour comprendre comment fonctionne la mafia? Est-ce que la fiction, en tout cas, restitue bien ce que sont vraiment ces organisations criminelles?
Oui, alors ça dépend lesquels. Hein. La série Gomorra fait beaucoup parler d'elle en ce moment, même si c'est un peu problématique de n'avoir qu'une représentation de l'intérieur et d'oublier complètement toute la lutte contre la mafia qui l'entoure, hein, et l'absence totale des forces de l'ordre. Mais sinon, il y a un très bon film qui s'appelle Les âmes noires de Fabrizio Munzi sur l'Andrangheta et qui montre très bien l'implantation dans le Nord aussi.
Eh bien, merci beaucoup Charlotte Moge d'avoir participé à cette émission depuis les rendez-vous de l'histoire de Blois. Si vous avez tendu l'oreille, vous aurez reconnu le thème musical de Nino Rota, Le Parrain, le film de Coppola. Pour terminer cette discussion, un remix du groupe Meat Truffle. Voilà, merci à tous. Politique, c'est une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Séverine Cassard, avec l'équipe technique à Blois, Marco Darros, Franck Malabry, Fabien Gosset, Mathieu Leroy et Jean-François Georges. Je vous retrouve lundi matin à 8h45 pour la transition dans les matins de France Culture. À 12h45, la suite dans les idées de Sylvain Bourmeau et dans un instant, le journal de 12h30. For them.